Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue du studio Tamani. Nous sommes au CICB, Centre International des Conférences de Bamako. Depuis ce lundi où se tient la phase nationale du dialogue intermalien, un dialogue intermalien qui tire vers sa fin d'ailleurs, après plusieurs mois de travaux, de débats entre les différentes composantes de la nation, les pourparlers directs entre Maliens prendront fin demain vendredi. Les recommandations et résolutions adoptées au cours de ce dialogue seront remises au chef de l'État. Aujourd'hui, dans le Grand Dialogue, nous nous intéressons à l'apport des médias dans ce processus intermalien, mais aussi leur appréciation sur le déroulement de ce dialogue et les recommandations formulées dans les commissions. Ce soir, trois journalistes sont avec nous. Bandjougou Danté, il est journaliste, mais aussi il est le responsable de la communication au comité de pilotage du dialogue intermalien. Bakary Cissé Dibaxi, il est journaliste à la radio Clédou, et Badou Sidi Koba, directeur de publication du journal Le Triomphe, également du journal Le Carrefour. Pour animer ce grand dialogue, je suis Sékou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais commencer par vous, Bandjougou Danté. Vous êtes le responsable de la communication au comité de pilotage du dialogue intermalien. Est-ce que, à ce stade, vous êtes satisfait de l'accompagnement de la presse pour ce dialogue intermalien?
Sékou, je vous remercie beaucoup. Permettez-moi vraiment de remercier d'abord le président de la transition et le président du comité de pilotage qui ont bien voulu placer leur confiance en moi pour être membre de ce comité. Et dans ce comité, on a confié à ma modeste personne, certainement en raison de mon milieu d'origine, qui est le monde de la presse, premier responsable de la presse malienne, et bien évidemment, on m'a responsabilisé pour assurer avec mon équipe la communication de ce dialogue. Bon, satisfait, pas satisfait, c'est une œuvre humaine. Nous préférons laisser vraiment l'appréciation aux autres. Mais je crois que nous avons élaboré un plan de communication que nous avons essayé de mettre en application avec l'accompagnement de tous les acteurs des médias. C'est le lieu vraiment de remercier d'abord la mobilisation générale de la presse autour de l'événement. Rarement, événement aura mobilisé la presse malienne dans toutes ses composantes, publiques et privées.
Donc, vous estimez que la presse s'est mobilisée pour ce dialogue intermalien?
La presse s'est véritablement mobilisée depuis le départ. D'abord, depuis le lancement des activités, le président du comité de pilotage s'est déplacé pour tenir une conférence de presse à la maison de la presse pour lancer ses activités. Ensuite, il a fait une seconde visite à la maison de la presse et cette fois-ci, selon son expression, pour dire bonjour aux journalistes. Cette fois-ci, il n'était pas venu pour des questions ou encore pour faire une prestation média, mais il était plutôt venu pour dire aux journalistes, aux hommes des médias, qu'ils sont des Maliens qui ont également un rôle important à jouer dans l'appropriation de ce processus de paix. Ensuite, nous, autres commissions, avons organisé ici au CICB un atelier d'information qui consistait à expliquer les dispositifs mis en place pour la couverture de cet événement. Mais avant, les journalistes, dans leurs rédactions respectives, radio, télévision, presse en ligne, journaux, franchement, du début jusqu'à maintenant, il ne s'est pas passé une journée sans que ce dialogue ne soit évoqué sur un média, et en utilisant les différents formats médiatiques qui existent. Interviews, reportages, débats, tout y est.
Alors, Bakary Cissé, Badou Escoba, réaction à ce premier commentaire du responsable de la communication du comité de pilotage qui se dit satisfait de la mobilisation que la presse a faite tout au long de ce processus.
Voilà, merci. En tout cas, je donne d'abord bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Hein. Et je remercie également Sidio Tamani pour l'effort depuis le lundi jusqu'à maintenant. Quand même, on suit la plupart des infos de la rencontre de l'événement à travers Sidio Tamani. C'est une réalité. Maintenant, je remercie une fois de plus le président, c'est mon jeune frère, mais il est le président de la Maison de la Presse, notre président. En plus de cela, donc, il a été honoré donc, de prendre la tête de la commission avec des mélanges journalistes également, le jeune frère Alassane Suleiman et puis Salif Sanoko. Donc, on les félicite hein, donc, par rapport à leur nomination. Donc, si il dit aujourd'hui qu'il est satisfait, je pense que c'est le lieu de le dire parce que toute la presse dans son intégralité, que ce soit radio, télévision, il en a parlé déjà. Donc, quand même, chacun a moué les maillots, donc en ce qui nous concerne, donc pour se battre, en tout cas pour la couverture de l'événement. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, donc si le président de la commission dit qu'il est satisfait de la prestation de la presse, moi je pense que c'est juste.
Bon, je salue d'abord les téléspectateurs et téléspectatrices que nous suivons en ce moment. Et au passage, je salue le doyen Baxi et je rends hommage particulièrement au président de la Maison de la Presse qui pilote la commission média de ce dialogue intermalien, du début du processus jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'avoue qu'il a fait un travail remarquable. Et à aucun moment, il n'a fermé la porte aux journalistes. À chaque fois qu'un journaliste a besoin de quelque chose, si vous partez le pouvoir, il ouvre la porte. Donc, il a mis à notre disposition toutes les thématiques, ce qui nous a facilité le travail. Vous n'avez pas remarqué pratiquement que ce soit les médias en ligne, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télévision, la radio, les moyens audiovisuels. Et je pense que tous les leviers de la presse se sont appropriés ce dialogue intermalien. Vous savez, ce dialogue intermalien, c'est un dialogue de donner et de recevoir. Il s'agit de recoudre le tissu social qui a été mis à mal depuis 2012. Et pour ça, le président de la Maison de la Presse n'a ménagé aucun effort pour que la presse puisse pleinement jouer son rôle et qu'il en soit remercié autour de cette table.
Et nous pouvons témoigner cela depuis que nous sommes là, bien qu'il soit au four et au moulin, il s'est toujours mis à notre disposition, il nous a facilité la tâche ici et nous le saluons pour cela. Maintenant, parlons du dialogue intermalien Badou Escoba. Comment vous, quand vous avez, j'estime que vous avez observé le processus depuis le début, alors quelle appréciation vous faites de ce processus-là?
Et par rapport au processus du dialogue intermalien, dès le départ, moi j'ai manifesté mon opposition à ce dialogue intermalien. J'ai dit que c'est un dialogue de trop, parce qu'il y a eu les assises nationales de la Fondation qui ont tracé les sillons du Mali nouveau. Donc, à notre grande surprise, vers la fin du mois de décembre, le président de la transition chef de l'État a affirmé qu'il y aura un autre dialogue, un dialogue intermalien où les Maliens vont se parler. Je me suis posé la question, les autres dialogues, est-ce que c'était des dialogues entre Maliens et Européens ou bien entre Maliens et Américains? C'était des dialogues entre Maliens. Je parle de la conférence nationale souveraine. Ensuite, je parle de la conférence d'entente nationale sous IBK, le dialogue national inclusif et les assises nationales qui ont eu lieu sous cette même transition. Donc, ces différents dialogues, quand même, ont concerné d'abord les Maliens avant que ça ne concerne les autres. Et ce sont des Maliens qui se sont parlé. Bon, ce que j'ai dit, si on dit que ce dialogue est un dialogue entre Maliens, et les autres dialogues. Si les autres dialogues aussi étaient des dialogues entre Maliens. Seulement, et après chaque dialogue, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les rapports dorment dans les tiroirs. Et lors des discours de clôture, le président parle, il tient un beau discours, il annonce que vraiment le dialogue s'est bien passé, il y a eu ceci, il y a eu cela. Quelques jours après, on oublie qu'il y a eu un dialogue. Et ce dialogue, effectivement, a commencé depuis le mois d'avril. Il y a eu les phases communales, il y a eu les phases régionales. La phase nationale a débuté le lundi. Bon, moi, je me dis, mais de mon point de vue, je n'ai pas remarqué grand-chose. Je n'ai pas remarqué une différence entre ces dialogues intermaliens et les autres dialogues qui ont concerné les Maliens. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ce dialogue a été un dialogue de trop. La seule remarque que j'ai pu faire, ça, c'est la symphonie de Mamou Dafé du Centre Corée du Ségou. Sinon, à part ça, c'est les mêmes anciens visages, c'est les mêmes discours, c'est les mêmes personnalités. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ce dialogue n'était pas nécessaire. On aurait pu trouver la formule, organiser des journées de recueillement, organiser des journées de réconciliation nationale, organiser des journées pour rendre hommage aux civils, aux militaires, je veux dire, aux forces internationales qui sont tombées au Mali, aux civils qui sont tombés, aux forces de défense et de sécurité du Mali, qui ont fait don de leurs personnes, qui sont morts les armes à la main, nos valeureux combattants, leur rendre hommage, mettre en place des cimetières militaires pour élever des monuments à leur honneur. Donc c'est à cela que j'ai pensé. Mm-hmm. Mais en aucun moment, je n'ai pensé à l'organisation d'un dialogue intermalien. On nous a dit que ce dialogue intermalien a été mis en place, peut-être c'est pour combler le déficit qui a été laissé par l'accord ici du processus d'Alger, parce que l'armée malienne a récupéré Kidal, Tinzawatène, et que les membres du cadre stratégique permanent donc, ne seront plus invités autour de la table parce que vraiment, désormais, ils sont bannis. Tout ça, c'est une réalité. Mais moi, je m'étais dit qu'on aurait pu trouver une autre formule pour ce dialogue intermalien. Moi, je dirais tout simplement que c'est un dialogue de trop.
D'accord. Bakary Cissé, est-ce que vous pensez la même chose?
En tout cas, depuis le lancement de cette opération, depuis que l'annonce a été faite par le président de la transition, au niveau de la rédaction de Clédou, dont je suis le responsable, nous sommes toujours au cœur des grands événements. Donc, si un sujet national se pose comme ça, donc la question est posée sur la table au niveau de la rédaction. Donc, avec 12, 14, 15 journalistes, chacun donne son point de vue par rapport donc, à l'événement. Comment nous allons couvrir? Donc, quel est le plan qu'on va adopter? Donc, le plan est posé. Maintenant, les angles sont désignés, sont donnés aux uns aux autres. Maintenant, en tout cas, dans les discussions au niveau de la rédaction depuis le départ, donc, certains pensaient que ce sera donc une rencontre de trop. Il y a eu tellement de dialogues au Mali. Donc, jusque-là, hein, il y a les résolutions qui dorment dans les tiroirs, c'est une réalité. D'autres disent que non, il faut aller parce que nous partons vers le Malikoura. Si nous partons vers le Malikoura, il faut faire des nouvelles choses. Bien, maintenant, quand même moi, en tant que responsable, j'ai dit d'accord, tout ça c'est bon. Maintenant, déjà, on a compris, on a vu que dans les derniers accords, les Maliens partaient, prenaient l'avion pour aller au Burkina Faso, pour aller parler là-bas, aller en Algérie pour parler là-bas. Maintenant, pourquoi, donc, aujourd'hui, si le pouvoir décide qu'on ne va plus faire ça, donc on va parler à Bamako entre nous, Maliens. Moi, je dis que vraiment, c'est une aubaine, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous, les Maliens, aujourd'hui. Sinon, la dernière fois, lorsque les Maliens se sont emportés vers Ouagadougou, je me rappelle bien, hein, voilà, si je me trompe, voilà. Donc, on n'a pas compris. Ils sont partis faire quoi là-bas avec les grands responsables, on a vu tout ce qui s'est passé là-bas.
Donc, vous trouvez que ce dialogue intermalien est pertinent?
Voilà, donc, moi, non, je pense, voilà.
C'était nécessaire.
C'était nécessaire. Mm-hmm. C'était nécessaire, donc, à ce point de vue. Donc, on ne va plus au Burkina, on ne va plus en Alger, mais on va régler notre problème ici. Comme disait l'autre là, donc, l'installe va se laver à la maison. C'est une réalité. Mais, donc, mon souci également, c'est quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des recommandations, donc, de ce dialogue-là? Qu'est-ce qu'on va dire de nouveau? Parce qu'on a eu des recommandations, on a eu des ateliers, on a eu des trucs ici aujourd'hui, dont les recommandations sont là. Mais, est-ce que ça a été appliqué? Question. Maintenant, aujourd'hui, c'est que, après ça, là, est-ce que les recommandations seront appliquées? C'est le souci de tous les Maliens aujourd'hui. Sinon, bon, moi, je suis d'accord avec l'organisation de donner l'occasion aux Maliens de se retrouver. Donc, moi, je suis d'accord. Maintenant, on attend la suite, maintenant, dans l'application de ces résultats.
Alors, pour vous, de la phase communale jusqu'à la phase nationale qui se tient en ce moment, rien n'a été dit de nouveau, rien n'a été dit qu'on n'a jamais dit dans les autres forats, dans les autres dialogues, rencontres passées.
Donc, pratiquement, c'est la même chose, hein. Voilà, c'est la même chose. On a même entendu des choses qui ne sont même pas parties, donc des thématiques. C'est une réalité. Tout de suite, j'ai écouté sur votre antenne. Quelqu'un a dit, un chef de commission a dit, il dit qu'on demande donc de prolonger la transition. Bien vrai que cela n'est pas dans les thématiques. C'est ça. Il a dit ça maintenant aujourd'hui. En tant que presse privée, donc, et si nos auditeurs nous disent, on dit déjà qu'on connaît déjà. Depuis le départ jusqu'à maintenant, on connaît déjà les résolutions donc, de ces assises-là. C'est quoi? C'est prolonger la transition. C'est quoi? Faire ça. Déjà, si une commission, après les trucs de cette commission politique-là, donc si on ressort tout ça déjà, tout de suite, donc on donne raison donc à la population. Voilà, déjà, qu'ils connaissent les résolutions avant même la fin des assises, du dialogue.
Alors, Bandjougou Danté, beaucoup de gens l'ont dit ici, hein, c'est toujours bien de dialoguer. Il faut toujours dialoguer et lorsque on est dans des problèmes, ça permet toujours aux gens de vider leur sac et que la confiance revienne. Maintenant, est-ce que beaucoup pensent que c'est beau, ça fait trop de dialogue, ça fait trop de rencontres, mais chaque dialogue aussi s'est tenu dans un contexte précis. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il fallait faire ce dialogue-là et pour quelles raisons précisément?
Je crois que la tenue de ce dialogue était nécessaire. Le mot, vous l'avez trouvé, le contexte. Le contexte du Mali de 2024 n'est pas celui du Mali de 2012. Aujourd'hui, le Mali a courageusement décidé de prendre son destin en main. Il y a des choses que l'on croyait impossibles. Le départ des forces internationales, le départ de l'AMINUSMA, la récupération de Kidal, récupération militaire de Kidal. Donc je pense qu'avec l'ensemble de ces éléments, il était quand même important qu'on ait en période de transition. C'est un pouvoir de transition qui a pris des engagements avec le peuple malien. Et ce pouvoir a été amené à changer de paradigme à un moment donné, à prendre une orientation qui a consisté effectivement à permettre aux Maliens de retrouver la souveraineté. Bon, avec cette nouvelle situation qui se crée, il est important qu'on imprime une vision assez claire à la situation nouvelle qui se pose, et cela en collaboration avec l'ensemble des Maliens. Kidal est récupéré. L'insécurité existe encore. Et les élections sont attendues. Donc voilà des questions de fond. Donc il fallait parler de tout ça là, entre Maliens. Et là, ce n'était pas nécessaire qu'on trouve un garant international, parce que dialogue intermalien ne veut forcément pas dire se déplacer pour aller ailleurs. On peut tenir un dialogue au Mali et que ce dialogue soit instrumentalisé par l'extérieur. Vous vous rappelez, dans un passé récent, il y a des pays qui se permettaient d'appeler une partie des Maliens pour les former en technique de négociation. Technique de négociation contre leur, pour défendre quel intérêt, qu'il soit en dehors des intérêts nationaux. Donc je crois qu'aujourd'hui, si entre Maliens nous nous retrouvons, nous regarder dans les yeux et laisser la parole libre, que les gens soient même invités à parler des problèmes spécifiques à leur localité, je pense que c'était tout à fait normal. C'est vrai qu'il y a des questions qui ne sont pas dans les termes de référence qui sont revenues. Mais quand on va voir les gens dans leur localité qui ont vécu des réalités en leur disant « Nous venons vous écouter » et peuvent dire que « D'accord, vous avez dégagé un canevas de réflexion, mais chez nous, voilà notre préoccupation. » Et là aussi, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Ils ont le droit de dire ce qu'ils ressentent. Ils ont le droit de faire leurs propositions. N'est-ce pas? Parce que ils peuvent dire que vous avez dit dialoguer, d'accord. Mais tout ce que vous avez amené comme élément de dialogue, ça, ce sont les propositions de vos experts. Mais moi, dans ma localité là, ici, voilà ma réalité et voilà ce que nous voulons. C'est ce qui a amené, bien évidemment, des questions nouvelles qui sont nées dans le dialogue et qui n'avaient pas été prises en compte par les experts.
Alors, pour vous, sur quoi vous vous basez aujourd'hui pour dire qu'il fallait faire ce dialogue? Est-ce que c'est au regard de l'implication des populations, de la mobilisation des Maliens pour ce dialogue? Sur quoi vous pouvez vous baser aujourd'hui pour dire que vraiment ce dialogue-là, ça en valait la peine?
Disons-nous la vérité. Ce dialogue en valait la peine pour la simple, bonne et simple raison que les gens n'ont pas été obligés de participer. On a exprimé les besoins aux communes en fixant des quotas qui, d'ailleurs, ont été largement dépassés. Et des gens ont souvent même été mécontents pour dire que nous, on a des choses à dire, il faut qu'on soit impliqué. Au niveau communal, tous les chiffres qui avaient été avancés ont largement été dépassés. Au niveau régional, la même chose. Et même au niveau national, des grands noms de la scène nationale qui, au départ, avaient refusé. Et au premier jour, on pensait que c'est une porte ouverte à tout le monde et qu'ils peuvent désormais venir se rallier à la cause et venir discuter. Or, ce n'est pas comme ça. Il faut que les gens soient délégués des régions, délégués de la diaspora. Et la nouveauté, c'est que on a même eu recours au monde universitaire pour que ces gens aussi, aux chercheurs, pour que ceux-ci aussi donnent leur regard d'intellectuels indépendants par rapport aux différents sujets qui étaient sur la table. Au-delà du monde universitaire, les syndicats qui représentent l'ensemble des sensibilités de la société, les grands syndicats du Mali, qui quand même sont considérés comme étant des forces neutres ou des forces de contre-pouvoir, ces syndicats ont été associés à ces dialogues-là, à la phase nationale. Ils ont eu les représentants. Les institutions de la République ont été mises à contribution. Donc je pense que vraiment, c'est un dialogue qui a le choix des hommes a été un choix judicieux, un choix responsable, et maintenant les gens se sont exprimés également librement, sans contrainte, sans influence. Cela est extrêmement important. La parole a été donnée aux gens du niveau communal au niveau régional, sans influence. Et les gens se sont exprimés comme ils le veulent, comme ils le souhaitent, dans la courtoisie, dans la compréhension. Maintenant, accepter quand même que l'autre ait des idées qui soient contraires aux idées de ce que X ou Y veut. Cette diversité des opinions à rendre le dialogue nécessaire. Si ce n'était pas nécessaire et que tout le monde pensait de la même façon, je pense que ce n'était pas nécessaire de discuter. Mais à partir du moment où les gens se mettent ensemble dans une localité, ils discutent, et qu'à la fin de la rencontre, il n'y a pas eu de combat, les gens arrivent à sortir avec un rapport, ça veut dire que c'était nécessaire.
Alors, Badou Escobar, vous êtes journaliste, vous êtes observateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec Dante que vraiment ce dialogue a suscité un engouement au niveau des populations maliennes?
Par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai entendu, ce dialogue n'a pas suscité autant d'engouement, par exemple, par rapport aux assises nationales de la Refondation. C'est vrai que les époques ne sont plus les mêmes, les enjeux ne sont plus les mêmes. Nous sommes bien loin de l'époque de la guerre froide, nous sommes très bien loin des accords de Tamara 7, nous sommes loin du pacte national qui a été signé en 1992, nous sommes assez loin des accords de Ouagadougou qui ont permis l'organisation des élections de 2013. Nous sommes assez loin aussi de l'accord ici du processus d'Alger qui a été paraphé à Bamako. Tout ça, c'est une réalité. Mais l'autre réalité, c'est quoi? C'est que par rapport à ce dialogue intermalien, on sent une certaine exclusion. C'est vrai que les partis politiques ont été suspendus et les associations à caractère politique ont été suspendues. Mais malgré tout, on a pu trouver la formule pour permettre au dialogue vraiment d'étendre son rayon d'action à l'ensemble du peuple malien. C'est vrai qu'il y a eu la phase communale, il y a eu la phase régionale. Aujourd'hui, c'est...
Mais les partis politiques n'ont pas été exclus, n'ont pas été suspendus du dialogue. Hein. Ils ont, c'est leurs activités qui ont été suspendues. Et ça, c'était... voilà, je pense que ça n'a rien à voir avec le dialogue. Le dialogue était, le processus était déjà enclenché avant que cette décision ne soit prise.
Oui, le processus était déjà enclenché, mais si vous me demandez, je dirais que une bonne partie de la classe politique avait été déjà exclue, surtout les vieilles apparatchiks de 1991. Je veux parler des acteurs de 91. Donc, parce qu'il y a eu un préjugé autour de cette ancienne classe politique, préjugé qui a fait croire que la descente aux enfers du Mali, c'est dû à eux. Donc ça a suscité une certaine colère chez la population, ce qui fait que les autorités de la transition ont traîné les pieds pour essayer de les inviter. Et même si certains ont été invités, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Et au-delà de cela, il y a la société civile. Une partie de la société civile aussi, de mon point de vue, a été exclue. Donc ça a suscité des grincements dedans. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ce dialogue intermalien aurait pu être un dialogue qui allait créer la différence avec les autres dialogues, mais ça n'a pas été le cas. Et il est vrai que rassembler les Maliens pour qu'ils discutent entre eux, c'est toujours bien. Que les Maliens trouvent une solution à leurs problèmes en territoire malien, c'est toujours bien. C'est une très bonne chose. Qu'on aille discuter à Alger ou à Tamara 7, ce n'est pas c'est une mauvaise chose. Qu'on se retrouve toujours, qu'on discute entre Maliens. Je dirais que ce n'est pas la première fois que les Maliens discutent entre eux. Les Maliens ont toujours discuté entre eux. Nous sommes là en train de discuter entre nous. Nous sommes sous l'arbre à la palabre, nous sommes entre frères, ça c'est déjà un dialogue intermalien. Donc c'est pourquoi j'ai dit, ce dialogue intermalien, n'est-ce pas, aurait pu évoluer vers d'autres sens. En ce sens que ce dialogue intermalien aurait pu être le dialogue vraiment de la communion, le dialogue de la fraternité éternelle entre Maliens. Le dialogue où tous les fils et filles du Mali seraient invités. Il y a beaucoup de personnalités qui sont à l'étranger, qui font l'objet de mandats d'arrêt international. Je ne parle pas des criminels du cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de la Zawad, et on doit même les exclure parce qu'ils ne se sont jamais reconnus dans la République. Ils ont toujours eu des velléités indépendantistes. On ne peut pas les associer. Mais on aurait pu quand même associer d'autres groupes armés beaucoup plus modérés, n'est-ce pas, pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution définitive à la question du Nord. Parce que l'une des problèmes, l'une des raisons pour lesquelles au Nord, on prend tout le temps les armes, c'est dû à la nature. La nature a horreur du vide. Vous prenez le trajet Gao-Kidal, il n'y a pas de goudron. Au-delà de cela, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'usine qui puisse embaucher les jeunes. Donc, un jeune qui n'est pas à l'abri du besoin, ce jeune sera à l'abri des terroristes. C'est pourquoi j'ai dit, pendant longtemps, le Nord et le Centre ont été des terreaux fertiles pour les terroristes. Donc, je croyais qu'on allait discuter de ces sujets-là. On aurait pu organiser une table ronde.
Ce sont des sujets aussi qui sont
revenu pendant les discussions en plénière, certains ont fait la demande de réparer, sinon de refaire la route Gao-Sévaré par exemple. D'autres ont demandé l'opérationnalisation de leur région. D'autres ont même demandé d'essayer de négocier avec les groupes radicaux. Donc c'est des propositions, des recommandations qui ont été faites au cours des débats. Badou Escoba.
Oui, tout ça c'est bien beau. Le tout économique, c'est ce que nous avons toujours dit. Le tout militaire ne saurait résoudre les problèmes. Il faut associer le tout économique. Je prends exemple seulement sur la région de Mopti, le cercle de Djenne et Tombouctou. Avant, les touristes venaient en masse, les jeunes les accompagnaient pour leur montrer les lieux. Donc ces jeunes avaient suffisamment d'argent pour pouvoir vraiment faire face aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un jeune de cette trempe, à qui vous partez donner 500 000 euros, à 500 euros, vous lui dites d'aller placer une mine sur la route des militaires, sur le trajet des militaires. Il va le faire parce qu'il n'est pas à l'abri du besoin. Donc moi, c'est pourquoi j'ai dit ce dialogue aurait pu être une table ronde qui va évoquer les questions économiques point par point, commune par commune. Parce que j'ai remarqué une chose. On a dit phase communale et qu'il y a eu des phases locales au niveau des arrondissements, je veux dire des sous-préfectures, des communes. Mais il y a des têtes qui sont à Bamako depuis 40 ans, 50 ans. Ils n'ont jamais été dans leur terroir et ils représentent les localités. J'ai vu ça, j'ai les preuves. D'accord. Et vous appelez ça un dialogue intermalien?
D'accord.
Des individus qui ont passé 50 ans à l'étranger.
D'accord, nous allons vous redonner la parole. Nous allons revenir aux thématiques.
Je les ai fait aussi, je les ai fait dans la salle.
D'accord.
Si je pouvais rentrer dans la salle, j'allais les montrer au président de la salle. Il parle de dialogue intermalien. Ce visage-là, depuis 50 ans, il a
Nous allons vous redonner la parole.
Il vient de la région de Menaka. Il n'a jamais été dans
la salle. Bakary Cissé, est-ce que vous pensez comme Badou Escoba que le dialogue n'a pas été assez inclusif?
Oui, bon, quand même, lorsque vous avez dit que les partis politiques et les associations à caractère politique n'ont pas été exclus, ont été, moi je pense au contraire, parce que déjà, si on dit que vos activités sont suspendues, donc participer à un dialogue, c'est une activité. Voilà, vous allez participer au nom du parti. En ce mois, c'est une activité politique. Donc, si on dit que vos activités sont suspendues, comment vous pouvez participer à un dialogue? Ce n'est pas évident, mon frère. Donc, ils ont été bien exclus. C'est une réalité. Donc, il y a d'autres couches également donc, qui n'ont pas été touchées. C'est ça. Si on dit dialogue, c'est entre deux personnes. Par exemple, on dit que l'accord d'Alger, issu d'Alger, donc on va laisser tomber ça. Maintenant, on va essayer de trouver entre nous maintenant donc, un autre document qui sera bien profitable à tous les Maliens. Dans ces cas-là, qu'est-ce que nous avons dit à Alger? Qui était contre qui à Alger? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc, si on dit que l'accord d'Alger va laisser tomber, en ce moment, nous allons faire dialogue intermalien pour trouver donc des nouvelles formules. En ce moment, donc, il faut que les protagonistes soient là. Il faut que les protagonistes soient là pour discuter et trouver donc d'autres schémas. Mais malheureusement, donc, comme mon confrère a dit, c'est une réalité, on a des partis, je ne dis pas des partis politiques, on a des partis quand même qui ne sont pas dans les dialogues. Donc ce qui fait un peu que même nous, nos auditeurs, nous sommes comme des radios où les gens appellent, parce que beaucoup de gens ont fait des réserves par rapport à ça, même si nos auditeurs, la plupart quand même, ce sont les supporters donc, de la transition, plus précisément du colonel Assimi Goïta, c'est une réalité, ils défendent, mais réellement, il y a certaines choses qui ont été faites par rapport donc, à ces dialogues-là, donc là, ça ne mérite pas d'être fait. Donc si vraiment on voulait s'attendre, voilà, que les Maliens se donnent la main, on n'allait pas faire comme ça. Donc je vais tacler mon jeune frère président, donc lors de l'ouverture, c'est ce qu'on a dit, même les journalistes qui sont venus, on a vu que c'était quoi? Les joueurs sont venus. C'est l'ORTM, c'est Sidio Tamani seulement. Et puis les soirs, je ne sais pas, qui sont autorisés à rentrer dans la salle. Et les autres presses, donc voilà, allez-y, vous devriez dans tout ça, allez regarder la télé. Mais si c'était ça, dans nos rédactions, on a des téléviseurs. On allait rester là-bas et prendre les sons seulement. Ça serait là. Mais depuis là, donc on sait qu'il y a eu l'exclusion. Quelque part. Donc peut-être, moi, je pense que mon petit frère, il va bien, il va réagir, il va répondre à cette question. Mais quand même, il y a eu beaucoup de manquements. Je ne dis pas que tout n'est pas.
Oui.
Quand même, il y a eu des petits manquements par rapport à ça.
Par rapport aux médias, d'abord, Bandjougou Dante, vous pouvez répondre à cela. Mais après, aussi répondre au fait que certains acteurs n'ont pas participé à ce dialogue. D'après ce que nous avons appris, la porte n'est pas fermée. Les gens peuvent continuer à adhérer à ce processus-là, même après ces différentes phases-là.
Je crois quand même que la non-participation de certains acteurs, c'est quand même regrettable, il faut le dire. Mais je crois que tout est question de communication. En réalité, le comité de pilotage, bien avant la prise de cette mesure de suspension, que le comité a certainement découvert au même moment que tous les autres Maliens, des démarches avaient été entreprises auprès des uns et des autres pour qu'ils puissent participer au dialogue. À ma connaissance, et je crois l'avoir toujours dit, il n'y avait aucune force politique qui avait déclaré et de manière assumée son refus de participer à ce dialogue. Mais le comité a quand même essayé de les approcher avec des lettres d'invitation qui ont été envoyées avant la mesure de suspension. Maintenant, la mesure qui est arrivée a certainement été interprétée de différentes manières. L'administration va dire que c'est une façon de créer une certaine unité d'action autour de ce dialogue-là pour que les gens ne viennent pas avec des positions partisanes qui déchireraient davantage les Maliens. L'homme politique dira, je suis invité parce que je suis politique et je ne peux que raisonner et agir politique. Mais je crois quand même que ce qui est très important, que les uns et les autres se retrouvent rapidement dans l'intérêt du Mali pour que de bonnes conclusions qui sortiront de ces dialogues-là soient appliquées au bénéfice de l'ensemble du peuple malien. Pour ce qui concerne le cas de la presse, je me sens interpellé. En réalité, il n'y a nullement eu une volonté d'écarter qui que ce soit. Grand frère, vous êtes dans un pays où, dans Bamako et alentour, vous avez une centaine de radios. Vous avez 200 journaux. À Bamako, vous avez 43 chaînes de télévision. Et l'activité est localisée dans une salle de 1000 places. Et dans cette salle de 1000 places, les membres du comité de pilotage, c'est 160. Les délégués venus des régions, c'est 160. Les syndicats, les institutions, le monde universitaire complètent carrément le chiffre à 400. Les membres du gouvernement, les membres du CNT, les autres invités, déjà la salle de 1000 places, elle est remplie. Il avait été question de faire l'activité au Palais de la Culture, là où il y a 3000 places. On a compris qu'il n'y avait pas les commodités nécessaires permettant de faire l'activité là-bas. Même si on avait fait la cérémonie d'ouverture au Palais de la Culture, on allait délocaliser les travaux des commissions au CICB. Nous autres, au niveau de la commission, nous avons facilité le travail à tout le monde. Nous avons délivré 350 accréditations. 350 accréditations. Sur les 350 accréditations que nous avons données, on avait dans un premier temps invité 60 organes. Déjà, compte tenu de la susceptibilité de l'opération, le dialogue, qui doit impliquer tous les Maliens, les médias ont commencé à se plaindre. Surtout que c'est le président de la maison de la presse qui est le président de la commission de communication. Ils ont pensé à une conférence de presse à la maison de la presse, à la maison commune, où la porte est ouverte à tout le monde. De 60, nous nous sommes retrouvés à 350. Pour pallier à ce qui est arrivé le lundi, nous avons organisé un atelier qu'on a appelé « Atelier d'information et de sensibilisation ». Et en expliquant aux journalistes comment couvrir un événement. Comme les choses sont allées vite, nous avons tenu une réunion avec la sécurité, avec le protocole de la République, qui en réalité n'a exclu personne. C'est nous qui avons géré. Il a été dit, nous avons dit à l'ensemble des journalistes qui sont venus à la conférence, tout le monde ne peut pas avoir accès à la salle de 1000 places. On ne peut pas avoir une forêt de caméras. Et nous avons pris les précautions pour que la salle ne soit pas envahie par ceux-là qui viennent présenter des téléphones. Jusqu'ici, le problème c'est avec la presse conventionnelle. Et si tous ceux-là qui se réclament du monde de la presse avec les téléphones devraient venir, on n'allait même pas voir le présidium. On a dit qu'il faut aller vers une certaine responsabilisation en faisant en sorte que l'ORTM donne le signal sans logo aux télévisions et aux radios qui le désirent. On a aménagé trois autres salles dans lequel il y a les écrans géants, mais les salles sont interconnectées. Ce qui se passe dans la salle A, les gens de la salle B, les gens de la salle C, les gens de la salle D, tout le monde se voit. Sauf que des gens souhaitaient être physiquement dans la même salle que le président. Voilà les explications que nous avons données. Mais là où le problème s'est posé, on nous a donné 15 cartes d'invitation qui doivent être données aux médias qui peuvent être dans la salle. Et les autres là, peuvent avoir accès dans les autres salles annexes. Moi, j'ai donné 5 cartes sur les 15 à Studio Tamani. Pourquoi ? Studio Tamani est un média qui a 85 radios partenaires. Les médias de l'intérieur n'ont pas été accrédités, à part deux qui sont, un qui est venu de Tombouctou, un de Koulikoro. L'intérieur est accrédité à partir de Studio Tamani. En plus des 85 radios partenaires de Tamani, au moins 300 radios s'étaient engagées à prendre le signal à partir de Tamani. Et Tamani a 5 langues. Nous avons dit qu'il faut leur donner au moins la carte pour 4 journalistes et un technicien. La question des radios était dans une certaine mesure réglée à travers les 4 Tamani. Je suis très tranchant, très tranchant. Au-delà de Tamani, quand vous essayez de prendre les grandes rédactions qui font le journal, qui ne sont pas partenaires de Tamani, il y a certainement Clédou, il y a Joliba, pour lesquels j'avais réservé une carte. Et les uns et les autres allaient se reconnaître dans ce partage-là. Mais est-ce qu'il fallait donner les cartes aux organes invités avant le jour J, parce qu'on a eu 24 heures avant? J'ai dit non, ce qu'on va faire, envoyons les accréditations qui ont été données à tout le monde. On a même appelé les gens à la maison de la presse pour leur donner les cartes. J'allais me déplacer pour venir très tôt le matin avec les 6 à 7 cartes que j'ai. Les premiers qui allaient venir représentatifs, il fallait leur donner. Parce que la question de place là est tellement compliquée que tu vas donner à un média qui ne vient pas et ceux qui sont là sont pénalisés. Et surtout avec les télévisions, il faut donner 2 à une télévision. Quand tu donnes au caméraman, il faut donner à son journaliste. En venant, au niveau de l'ENSUP, j'ai été pris dans un bouchon. Et quand j'ai été pris dans un bouchon, je suis descendu du véhicule en laissant le chauffeur seul. J'ai marché de l'ENSUP au CICB. Les gens avaient commencé à m'appeler. Mais là où j'ai été choqué, des confrères qui ont un problème, ils n'ont pas appelé le président de la commission communication. Ils cherchent uniquement à faire des publications sur les réseaux sociaux. Mais informer sur les réseaux sociaux à quelle fin, pour quel intérêt et pour quelles raisons. Et surtout, que ceux qui se plaignaient ou ceux-là qui sont intervenus dans les reportages réalisés par des médias comme Joliba, comme Clédou, les 95% de ceux qui sont intervenus dans ces éléments étaient à la télé préparatoire. Donc franchement, c'est l'occasion pour moi de présenter mes excuses aux médias qui souhaiteraient être dans la salle et qui n'ont pas pu être. Et ceux-là qui ont pensé que c'est une exclusion, il n'y a pas eu exclusion, il n'y aura pas exclusion. Et nous allons rattraper ce qui s'est passé pour cette cérémonie de clôture. Mais disons-nous la triste vérité, il ne peut pas y avoir un événement dans une salle de 1000 places avec 350 journalistes.
D'accord, cela est bien compris et j'espère que cette explication aussi a été bien comprise par tous nos confrères. Badou Escobar, revenons à ce dialogue intermalien. Des recommandations, beaucoup de recommandations ont été faites, hein, je le disais tantôt. Il y en a qui ont demandé à ceux qu'on négocie avec les groupes armés radicaux. Ça a suscité beaucoup de débats pendant les plénières. D'abord, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est pas la première fois que cette demande revient, même s'il n'y a pas vraiment d'accord sur la question.
Je tiens d'abord à rendre hommage à nos forces armées qui ont pu liquider Abu Zaifa du Yougo. Et ils l'ont liquidé avec un professionnalisme hors du commun qu'on n'enseigne même pas à Fréjus ou à West Point ou à Sandhurst en Grande-Bretagne. Donc que nos forces de défense et de sécurité en soient remerciées, c'est une prouesse. Et par rapport à la négociation avec les différents groupes armés, je pense qu'une négociation est toujours nécessaire. Toute guerre se termine autour d'une table. Mais encore faudrait-il que ce soit avec des gens de bonne foi, des gens raisonnables qui ne demandent pas beaucoup. Et ceux qui demandent aujourd'hui la transformation de la République en un État islamique, en un émirat islamique, on ne peut pas négocier avec eux. Ceux qui demandent l'indépendance, on ne peut pas négocier avec eux. C'est pourquoi il est bon de négocier, mais il faudrait faire un tri sur le volet. Il faudrait faire un tri sur le volet, savoir avec qui négocier, pourquoi négocier, et négocier avec des gens crédibles, des gens avec qui on peut discuter et des gens qui sont capables, qui sont susceptibles de respecter les accords qui seront signés. C'est très important, il faut le suivre. Mais aujourd'hui, par rapport à ce dialogue intermalien, le président de la Maison de la Presse sera peut-être notre porte-voix durant les travaux. Il faut que les services sociaux de base y retournent. C'est ça l'urgence aujourd'hui. Il faut que les services sociaux de base y retournent. Il faut que l'administration y retourne. La nature a horreur du vide. Plus de 1000 écoles sont fermées. Dans certaines localités, il n'y a pas de centre de santé. Il n'y a pas de système d'adduction d'eau. Il n'y a pas de présence du sous-préfet. Il n'y a aucun symbole de l'État. Donc, il faut trouver une solution à cela et c'est très urgent. Et je vais aussi parler du contexte géopolitique. Vous savez, on est en train de redessiner la carte du monde. Aujourd'hui, Russes et Ukrainiens se sont affrontés. Les Russes s'intéressent de plus en plus au Sahel, qui était le précaré de la France, qui était le précaré des États-Unis. Donc, les enjeux ont bien changé. C'est pourquoi je partage le point de vue des autorités de la transition qui a dit qu'il faut que vous respectiez la souveraineté du Mali. Il faudrait que vous respectiez les choix du peuple malien. Il faudrait que les partenaires stratégiques respectent les choix du Mali. Ça, c'est une très bonne chose. Mais entre Maliens, je pense que il faut toujours continuer à discuter, à dialoguer. Ce dialogue intermalien ne suffit pas. Ce dialogue ne suffira pas. Il faudrait d'autres dialogues et des dialogues de proximité. C'est pourquoi j'ai dit il faut que tout le monde se reconnaisse dans le dialogue. C'est pourquoi quand le président de la commission d'organisation a dit le lundi que 120 000 internautes sont intervenus, c'est peu par rapport à 23 millions d'habitants. 120 000 internautes par rapport à 23 millions d'habitants, je pense que le chiffre est arabe. C'est pourquoi j'ai dit beaucoup ne se reconnaissent pas dans ce dialogue intermalien. Parce que, vous savez, le Mali, c'est une mosaïque de peuples.
D'accord.
Vous partez dans le Haïré, dans le Kourmari, dans le Folona, dans le Kapolondougou, dans le Kabouela. C'est des ethnies, c'est une mosaïque de peuples. C'est une culture, c'est
d'accord.
Une civilisation. Donc, il faut qu'on tienne compte de nos réalités socio-culturelles.
Il
faut éviter ces bluffers-là. Il y a beaucoup qui sont à Bamako depuis 30 ans, 40
d'accord.
ans, 50 ans.
Vous l'avez déjà dit. Nous n'allons pas revenir sur ça. Bakary Cissé, nous n'avons plus assez de temps, malheureusement, Bakary Cissé. Vous l'avez dit, nous avons connu beaucoup de dialogues, beaucoup de rencontres de ce genre. Comment faire en sorte que ce dialogue, en tout cas, ne soit pas comme ceux que nous avons déjà vus par le passé?
Non, mais ça, c'est quand même la responsabilité des responsables. Voilà, parce que déjà, on a eu fait beaucoup de dialogues, beaucoup de réunions par rapport à ça. Donc, demain, les conclusions seront remises à qui de droit. Maintenant, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Les NR, là, on a fait ici, il y a beaucoup de décisions ont été prises. D'autres ont été appliquées, mais d'autres n'ont pas été appliquées jusqu'à présent. C'est une réalité. Maintenant, est-ce que les résolutions qui seront données demain aux responsables et à qui de droit, est-ce que ça sera appliqué? C'est ça la question fondamentale. Parce qu'au Mali, il y a eu tellement de réunions, tellement de séminaires, tellement d'études autour de tout ça, qu'on va se retrouver avec pratiquement les mêmes résolutions, les mêmes trucs. Mais par rapport à dialoguer avec Yad, dialoguer avec Koufa, tout ça, moi je pense que le dialogue intermalien est une occasion également pour les Maliens qui veulent que le pays dialogue avec ces bandits-là, ces gens-là. Donc on peut le dire, et ça va ressortir dans les recommandations. Mais si on ne veut pas dialoguer avec eux, on va le dire également de ne pas dialoguer avec eux, c'est tout. Maintenant, on a dit que c'est libre, le président de la transition, je l'ai écouté, il dit que tout le monde est libre de parler. Donc, mi kadibou faux. Donc dans ces cas-là, si on veut vraiment que sortir de la crise, il faut passer par dialoguer avec Yad, dialoguer avec telle personne. Maintenant, il faut que ça ressorte dans les résolutions. Non, c'est moi. Ils sont obligés de l'appliquer. Mais si ça ne ressort pas dans les résolutions, donc cela veut dire que donc, les Maliens même donc, ne veulent pas ça.
D'accord.
C'est une réalité.
D'accord. Voilà. Je pense qu'on est au terme de l'émission. On me fait signe qu'il est déjà 19h et nous sommes à 45 minutes. De ce débat, le temps passe vite. Merci à Bandjougou Danté qui est le responsable de la commission communication au comité de pilotage du dialogue intermalien, Bakary Cissé, journaliste à Radio Clédou, et Badou Escoba, journaliste également directeur de publication du journal Le Triomphe, également du journal Le Carrefour. Ce grand dialogue parlait aujourd'hui de l'apport des médias à la réussite de ce dialogue intermalien. C'était à la présentation Sekou Gadjigo, réalisé par Imran Akilou Maïga, sous le contrôle technique de Nuhum Djiré, Mamadou Ouattara et Gagné Kanté, ainsi qu'Ibrahima Sanogo. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour une autre émission dédiée à ce dialogue intermalien. Demain, je rappelle, c'est la cérémonie de clôture de 15h à 17h. Merci à toutes et à tous et à demain.